C'est bon. Bienvenue sur la chaîne AAU.
Ambiance, architecture, urbanité. Ce troisième séminaire de l'ANR Sensibilia débute avec la présentation du film Grenoble par ses bords et une discussion animée par Nicolas Texier.
Ce film, réalisé par Naïm Aït Sidoum, s'intéresse à la périphérie de Grenoble et à son lien avec les pentes montagneuses et l'eau.
Je vais vous donner peut-être le cadre de production du film. Après, on va le voir, il fait 25 minutes, 26 minutes. Et on en discute. Naïm interviendra qu'après, il interviendra un petit peu après. En fait, c'est dans le cadre du chantier de Sensibilia qui s'appelle à la recherche des écologies grenobloises, des écologies métropolitaines, et qui rejoint une vieille question qu'on partage à plusieurs chercheurs. En fait, c'est que Grenoble, à la base, on s'est rendu compte que Grenoble a peu produit de représentations cinématographiques. Et si on fait l'histoire des films qui montrent Grenoble, elle est possible, mais il faut vraiment la chercher. Ce n'est pas, y a pas tant de films que ça. Et à la Cinémathèque de Grenoble, on a trouvé ce film de 1928 de Robert Bastardi, qui est un film qui s'appelle Grenoble, et qui filme en première partie Grenoble et en deuxième partie ses montagnes. Et qui ne fait pas de séparation entre... Enfin, grosso modo, c'était évident pour ce film-là qu'il fallait filmer Grenoble avec la phrase bien célèbre qu'à chaque bout une montagne, etc. Mais surtout, en fait, il filme dans sa deuxième partie vraiment le Vercors, la Chartreuse, Belledonne, comme une espèce de logique. Et on voit des cars qui partent du centre-ville de Grenoble et qui vont en Chartreuse, qui vont en Vercors, etc. On voit dans le film le nom des hôtels. Hôtel de Chamonix, hôtel de Chartreuse, hôtel, etc. C'est une espèce de marquage du rapport entre la montagne et Grenoble. Et puis, petit à petit, on est venu à commencer à produire des morceaux de films, des choses comme ça, en particulier avec Naïm sur Grenoble. Et il y a 4-5 ans, on a été commandité dans un POPSU, Métropole, c'est une recherche métropolitaine, avec un axe sous la direction de Charles Ambrosino. On a fait une hypothèse, c'est que Grenoble aurait au moins à partir du milieu, voire du début 20e siècle, oublié sa géographie. C'est-à-dire, quand je dis oublié, c'est non pas sa géographie lointaine, qui sont les sommets, les Alpes, là où on va faire du ski, de la randonnée, la beauté des paysages, non, il a oublié sa géographie proche, c'est-à-dire les pentes qui nous entourent et l'eau, que ce soit le Drac et l'Isère. Et que Grenoble s'est construit, grosso modo, plutôt en niant ou en oubliant ou en s'éloignant ou en se protégeant des crues, des inondations, etc. Et en interdisant l'accès aux berges, etc. Et pour les pentes, en interdisant les constructions, parce que toutes les pentes de Grenoble sont dans des terrains qui ne sont pas si simples, et donc qui posent des questions, bien sûr, d'écroulement, d'éboulement, de coulée. Mais en même temps, tout ce savoir-faire de l'habiter la pente, qui existait avant, a disparu. L'agriculture sur les pentes a disparu, etc. Et donc, comme si Grenoble, qui a trois caractéristiques géographiques, hein, la plaine, la ville plate, les pentes, et puis l'eau, en fait, a surtout conquéri la plaine en oubliant les pentes et l'eau. Et donc, avec Charles, on est parti sur cette exploration-là, et c'est... un peu la commande qu'on a fait à Naïm en se disant, mais on... Alors la première commande initiale, c'est de se dire, on assume de 1928, on a un autre dont je ne vous parlerai pas maintenant, des années 70, qui nous montre la ville prise par la voiture, etc. Bon, et on s'est dit, on va faire le troisième film. Comme ça, tous les 40 ans, tous les 50 ans, en fait, on a un film. Et là, on ferait le troisième film de la trilogie. Donc, pas mal d'images ont été tournées, énormément d'images, qu'on a d'ailleurs regroupées dans une cartographie qui est accessible sur Internet en 12 petits films de 4-5 minutes chacun, qui permettent, sans narration, enfin, ce n'est la narration des images, d'aller explorer comme ça le territoire grenoblois avec les roches, mais plus que des roches, en fait, montées. Mais on a souhaité en faire un film uniquement, et on s'est concentré sur le rapport aux pentes et à l'eau de Grenoble. Et donc Naïm et Julien sont partis re-explorer les endroits où la ville touche les pentes et où la ville touche l'eau. Et c'est cette exploration-là, c'est pour ça que le film s'appelle « Grenoble par ses bords ». C'est à la fois littéralement les bords de la ville quand la ville rencontre la pente, mais c'est aussi les bords de l'eau, les bords de ses géographies, etc. Et c'est un film que l'on a souhaité travailler sur les ambiances, ça vous vous en doutez. Voilà, donc le fait de le voir sur grand écran, grâce à Vincent, grâce à la Maison de la Création, c'est formidable parce que la question sonore, la question de l'image, de l'imprégnation, on va dire, atmosphérique, peut-être joue quelque chose dans ce film-là. C'est la première fois qu'il est montré en bonne condition. Voilà, on en parle après.
Ce film est disponible sur vimeo.com. Vous pouvez le visionner en cliquant sur le lien qui se trouve en description de ce podcast.
C'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait sur 3 années.
Ouais, c'est ça que j'avais
dit. 3 années.
Ouais, au moins 2 années. Au moins. Ouais. 2 années. Et qui s'est cherché dans ce qu'il souhaitait dire, en fait. Il y a eu une évolution dans le... Il y a énormément de rush, enfin, il y a énormément de parties tournées.
Mais tu veux que je dise comment ça se fait ?
Ouais, par exemple.
Mais en fait, oui, 3 ans, parce qu'il y a eu une première année de fausse piste, mais enfin, peu importe, c'est pas vraiment une fausse piste, parce que ça a permis de voir un peu mieux ce qu'il était envisageable de faire. Et en fait, ce qui s'est construit à un moment donné, c'était... l'idée de faire une espèce de chemin autour de... Enfin, sur un espèce de parcours qui faisait une espèce de mouvement qui a un cadran horaire, en fait. Avec une introduction qui part là du centre, dans tous les sens, et puis à un moment donné qui se retrouve au... Enfin, si je le fais pour vous, qui se retrouve au cuve de Sassenage, puis après qui va de l'autre côté... au parc du Fiancé, le long des contreforts de Chartreuse, là, à Saint-Égrève, et ensuite qui remonte le long de la Bastille, qui après redescend via l'Isère par jusqu'à l'île d'Amour, ensuite se retrouve un peu le long de la vallée du Grésivaudan à Mélan, parc du Raché, et après va de l'autre côté. Côté Mûrier d'abord, et puis ensuite Saint-Martin-d'Air, Poisa, là on voit un jardinier, et puis ensuite les Ruires, et Bain, avec du coup le passage par le Verderay qui fait le lien avec le Drac, qui ensuite, avec un petit écart là, c'est qu'on est sur le Drac, et puis on revient un peu à Ébain avec le cimetière intercommunal, mais bon, ça aurait pu être aussi un paysage de ce côté-là. Enfin, il se trouvait que là, pour des histoires d'enchaînement, c'était plus simple. Et puis après, qu'on se retrouvait un peu sur les hauts de Fontaine d'abord, par Karl Marx, et puis ensuite Cessinet, Cessin, avec le parc François Mitterrand, qui est la fin de l'affaire. Donc c'était ça qui ordonnait un peu le montage, avec ensuite l'idée de passer du matin au soir, enfin, d'ordonner ça aussi selon... un cycle temporel avec du coup au milieu le problème que il y a des choses qui sont l'automne, l'été, l'hiver, bon voilà, donc du coup il y a un peu d'hiver au milieu, un peu des fois d'aller-retour je dirais saisonnier, climatique, donc voilà pour la construction du film. C'est ce qui semblait le plus évident à un moment donné pour dans chemin faisant, en fait, pour le construire. Ouais.
La première fausse piste, c'était quoi ?
La première fausse piste, c'était d'avoir des personnages. Mmh. Et donc de suivre un itinéraire qui partait de la ville pour aller pour aller vers la montagne. Et c'était un peu coincé entre disons un registre de fiction et un registre de factuel. Mmh. Et pour tout dire, ça nous a semblé plus évident d'aller vers une forme factuelle. C'est-à-dire de se dire, bah, en fait, on n'est pas obligé de construire ça à partir d'une fable ou d'un enchaînement d'actions, voilà. Mais plutôt, étant donné le cadre, construire ça à partir d'une espèce de logique géographique ou d'espace. Et peut-être dire avec Julien ou avec Valentin quand il pouvait aussi. Bon, bah là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller filmer, quoi ? Ah, on en est là, on peut aller faire ça, et puis découvrir des choses un peu au passage en filmant. Et il y a eu à un moment donné cette espèce d'évidence de beaucoup filmer les parcs. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison un peu conjoncturelle, c'est que quand on s'est remis sérieusement au travail, c'était en 2020, après le confinement. Enfin, c'était là. Oui, c'était juste après le confinement. Et que donc, il y avait quelque chose comme un appel à aller filmer le dehors. Il y avait du monde dehors. Là, notamment, par exemple, les plans qui sont tournés au parc de l'Île d'Amour, il y a beaucoup de monde. Donc, il y avait une envie conjoncturelle d'aller là, là où, voilà, où il y avait un appel. Et puis aussi que notre expérience avec Julien, parce qu'on travaille tous les deux à la Villeneuve, et on y vit aussi d'ailleurs, c'est cette espèce de paysage périphérique qui est structuré par des grands parcs. Des grands parcs qui sont des restes d'aménagement, des volontés d'aménagement, ou bien souvent, en se renseignant, des espaces qui sont là aussi pour des raisons de gestion des risques, par exemple. C'est-à-dire que le parc du Fiancé, le lac, c'est un lac de retenue d'Isère. Il y a la présence du Verderay au parc des Ruires, et ainsi de suite. Et où aussi des traces ou des restes, en fait, d'anciennes activités qui ne sont plus. Bah, par exemple, à Mélan, c'était des vergers. On voit à un moment donné comme les traces, des restes de champs à Saint-Martin-d'Air. Bon, c'est pas un parc, mais... En tout cas, voilà, à la périphérie, il y a une espèce de trame comme ça qui est un peu dilatée, qui est à la fois cette trame des grands parcs, ces grands parcs qui du coup font une espèce d'articulation entre la ville et la pente, ou la ville et l'eau, et qui sont là comme des résidus d'une histoire un peu plus ancienne. Et en même temps, c'est des endroits qui sont tout autour pas nécessairement qualifiés. Hein, par exemple, je sais pas si je prends le parc des Ruires. Ce qu'on en voit, c'est assez beau. Autour, il y a un Intermarché, il y a un Pizza Pie, il y a les hangars de Petzl, il y a l'autoroute. Et souvent, c'est sain comme ça, ces espaces-là sont sains d'espaces logistico-techniques, zones commerciales, etc., qui sont plutôt des repoussoirs. Mais quand on est au cœur de ces endroits, c'est quand même particulièrement agréable. Donc il y a cette chose-là, on va dire, d'un mode de vie périphérique qui, on va dire, de parc en parc, existe. Et existe aussi avec une grande présence de la voiture. Alors la plupart du temps, le son est... On part d'un son in, hein, c'est le son de la caméra. Et puis après, il est reconstruit avec d'autres choses. Mais globalement, ça ressemble à peu près, ça ressemble à ce qu'on entend. Donc des fois, on entend les voitures, enfin on entend tout le temps les voitures, en fait, en vérité. À part à des endroits... Par exemple, le jardinier, on entend assez peu parce que les jardins ouvriers, c'est une clairière dans la pente à Poisa et que donc c'est étouffé par les arbres autour. Mais globalement, il y a toujours cette présence, cette espèce de drone continu de la voiture. Et puis après, que dire d'autre ? Sinon, qu'en le regardant à nouveau avant de le projeter ce matin, il y a quelque chose qui agissait aussi de façon plus inconsciente dans les choix de plans, c'est qu'il y a tout le temps des arbres dans les plans. Et que ça, je pense que c'est lié à notre sensibilité personnelle, mais c'est aussi lié au fait que bon, voilà, la caméra est là, un arbre c'est de l'ombre, un arbre c'est un objet, ou un arbre c'est quelque chose qui recadre, ou un arbre c'est quelque chose sous lequel il va se passer quelque chose. Enfin, typiquement au parc du Fiancé, il y a une famille qui est sous un arbre, c'est presque comme une espèce d'image symbolique en fait, bizarrement. Hein, il y a une tendue, un arbre, et puis d'un coup... voilà. Et donc, en le revoyant, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est l'omniprésence des arbres.
Oui, peut-être, parce que si je reviens aux chantiers qui sont les écologies métropolitaines, avec cette hypothèse que Grenoble, dans sa fabrication, dans son aménagement, aurait entre guillemets, négligé son rapport à l'eau et aux pentes. Ce que moi me montre le film, c'est qu'au moins une partie des habitants ne s'y trompent pas. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils les retrouvent, ces écologies grenobloises, par des pratiques qui sont de l'ordre qu'on voit très très bien, en fait. Donc c'est effectivement être sous les arbres, être au bord de l'eau, mais c'est regarder tout simplement, écouter, s'imprégner, marcher, hein, sentir. Autant de choses qui ne sont pas ni du centre-ville, ni de la montagne, dans ce cadre-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si... Et donc, si on reprend un terme qu'Aucresson a souvent utilisé, ça procède aussi un peu comme des espaces de réserve. C'est-à-dire que ce n'est pas les habitants d'à côté, forcément, qui sont là. Vous nous aviez dit, tel parc, c'est les habitants de Mistral qui viennent beaucoup, ou tel autre, c'est les habitants de la Villeneuve, ou, etc., ou du centre-ville. En fait, il y a bien une dimension métropolitaine de ces pratiques, mais qui ne sont pas dans l'imaginaire ni du centre-ville, ni d'un imaginaire de montagne, tel que Grenoble a cultivé, quand on regarde tous les documents des syndicats d'initiative du début du siècle à aujourd'hui, c'est Grenoble camp de base, la montagne, etc. Et donc je vois comme si c'est pas évidemment on projette ce qu'on souhaite, hein, mais je vois ces pratiques habitantes comme en fait le fait que elles reconnectent, elles apprécient, enfin elles retrouvent ces écologies géographiques, peut-être, enfin, en attendant, négligées dans les aménagements, même si maintenant, heureusement, il y a des parcs, il y a des choses, mais négligées dans nos imaginaires collectifs et négligées dans des politiques publiques réelles. Quoi.
Mais si on prend l'histoire des. Enfin, si on regarde un peu les lieux qui sont traversés là, souvent les aménagements sont là à titre fonctionnel, de gestion des risques. Alors, par exemple, le Furon, c'est l'hydroélectricité, mais en bas, tous les gros endiguements qu'on voit là avec les promenades de chiens, c'est des ouvrages hyper massifs, très fonctionnels. Le parc du Fiancé en face, c'est pour reprendre les crues potentielles de l'Isère. Tout l'aménagement de la Bastille, c'est un aménagement militaire, mais aujourd'hui, il est pris dans une question de rapport d'éboulement. L'île d'Amour, en fait, s'appelle l'île d'Amour parce qu'avant, c'était des îles à cet endroit-là, et que du coup, c'est un peu les restes de tous les travaux de détournement de l'Isère avec toutes les histoires de crues qu'on connaît bien, et puis après, les formes plus fonctionnelles de Mélan, et après, on peut continuer comme ça jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est une ville qui a une histoire militaire, stratégique, et puis ensuite fonctionnelle avec l'arrivée de l'industrie, et qui du coup n'a pas un rapport, je dirais, évident à l'hédonisme, enfin, même pas du tout, et que par contre ça existe, c'est-à-dire que c'est dans ces espaces-là qui ne sont pas pensés pour le plaisir, il y a quand même du plaisir. Quoi.
Interrogé sur la place de l'utopie, je me suis dit écologie métropolitaine et utopie, en fait, est-ce que ça match ou pas? Alors il y a les plans. Pour moi, ça serait à l'endroit du jardinier. Voilà. Peut-être l'espace d'utopie serait là. Mais c'était pas évident de le retrouver dans des parcs urbains. Qui sont à la fois des espaces qui ont l'air énormément plus sympas. Je ne connais pas tous ces endroits. Mais qui ont l'air à la fois très populaires. Et en tout cas, à l'image, on ne sent pas forcément qu'il y a quelque chose qui s'invente. D'autres que des propositions de venir au parc, de venir faire jouer les enfants, de venir taper le ballon. Je trouve que est-ce que c'est des marges qui sont porteuses aussi de comme ça de propositions de décadrage un peu ou pas du tout dans ce que vous avez rencontré, vu, vécu en tournage?
Non, enfin, je sais pas. Faudrait. Ta question, elle est, elle est, Si tu centres sur le jardinier, c'est que tu t'envisages l'utopie par rapport à un nouveau geste, on va dire, ou à un type de geste qui s'inventerait dans une perspective. Et le reste du temps, on va dire que c'est des types d'activités qui sont non productives, non orientées vers un avenir, en fait. Elles sont juste là, bah, tu vois. Les gens sont là, quoi. Après, il faudra regarder dans le détail si ce que fabriquent les gens en étant dans ces lieux.
Ouais, moi, je trouve que ce qui manque peut-être, moi je connais très bien ces parcs et je les ai presque tous reconnus, et c'est vrai que c'est des endroits où, quand on a des enfants et qu'on habite, je me repère beaucoup mieux dans les barges que dans le centre-ville, je pense. Mais ce que j'ai pas vu, que moi par contre j'essaie de pratiquer, c'est justement ces pentes. Souvent les parcs sont en bas, mais on a accès à des chemins qui démarrent et qui permettent peut-être justement cette distance par rapport à la ville, d'avoir ce recul. Il y a peut-être dans le parc des Chirolles où on voit qu'on a où c'est au Mûrier, où on a une certaine hauteur et on voit la ville de haut, mais sinon on est resté plutôt en bas. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même toujours cette proposition de prendre de la distance à partir de ces parcs et de monter et d'avoir une vue sur la ville d'en haut, mais aussi souvent un rapport de danger dans ces pentes, justement, qui sont des fois pas du tout vraiment accessibles, en fait, qui sont dangereuses. Même des fois, on se perd, on se retrouve dans des ravins et tout ça. Et aussi avec plein de bâtiments utilitaires, de réserves d'eau, de grands câbles de haute tension, enfin des endroits aussi où on sent qu'on est entre deux, justement, ni dans la ville, ni dans la nature, mais on est dans cet espace justement fonctionnel, tout ça. Et je trouve que le film, on reste quand même sur le bas, mais finalement, tous ces parcs-là sont rattachés. Bon, en tout cas, il y a la présence, on le sent, parce qu'il y a, quand même justement le rapport visuel, toujours à ces montagnes, tout ça. Mais souvent, on peut aussi essayer de s'en approcher, de s'y accéder, mais il y a quelque chose de très dangereux. Enfin, c'est pas le même rapport que quand on est en bas, justement, là où il y a les jeux d'enfants, les choses comme ça. Mais il y a toujours cette...
C'est pas une colline de parc, quoi, les pentes.
Ouais.
Il y avait plein d'interventions. Ouais. Voilà, et puis après Jean-Paul, et après Laure. Et Claire, bah, je sais plus dans quel ordre vous aviez levé la main.
Moi, c'était juste un complément, en fait, par rapport à justement la. Par rapport aux questions d'aménagement et du délaissé. J'ai l'impression qu'avec la proposition des sentiers métropolitains, qui justement essayer de reprendre cette thématique de Grenoble a accès à des pentes et à des départs, il y avait une tentative d'adresser cette question des pentes. Et c'est vrai que quand on essaye de décrire Grenoble à l'extérieur, on dit ben Grenoble c'est une ville dans laquelle les parcs sont sur les pentes. Enfin, la Bastille, en fait, c'est un peu ce prototype un peu unique de parc urbain, en fait, qui est à flanc de colline et qui est un peu une spécificité de la ville, je trouve.
Ouais, moi, c'est pas tant une question qu'un partager un peu un ressenti qui se connecte un peu à la question de l'utopie, mais qui était dans l'abandon de la fausse piste là des personnages. Ce que je trouve assez notable, c'est à quel point tous les plans sont peuplés. Mais justement, peut-être si on enlève même les présences humaines, donc les usages des parcs, la place des arbres, du vent, des écoulements. Et quand on voit ce genre de films muets, c'est souvent des films promotionnels faits par les offices de tourisme et trucs comme ça. Et là, je trouvais qu'il y avait une manière très belle d'avoir peuplé, si je le lis aussi avec les lunettes de Sensibilia, d'avoir peuplé le film de tous ces acteurs-là, ces acteurs, et de donner le sentiment de toute l'activité qui concourt à rendre la ville, d'être climatisée, quoi, pas au sens industriel, mais de créer un climat ou une atmosphère, et que ça passe par des flux d'air, par des... Alors c'est vrai que ça tranche peut-être aussi avec toutes les représentations de la stase... de la cuvette, dont on a, à part, il y a un plan qui le montre quand on a toutes les nappes de bouche. Mais c'était très sensible, cette l'animation des plans atmosphériques.
Non, on fait le tour des questions, je pense que c'est pas mal.
Dans le même sens que ce que dit Jérémy maintenant, moi j'ai beaucoup apprécié le fait justement qu'il n'y ait pas de personnages, qu'il n'y ait pas de voix off, qu'il n'y ait pas de musique. soit vraiment travailler là-dessus. Donc je trouve ça, ça fonctionne très très bien. Et j'ai un peu la même réaction, c'est-à-dire ce qu'on ressent beaucoup, c'est effectivement la place des éléments. Alors on sent l'eau est très présente, mais et l'humidité aussi. Moi, je me posais la question par rapport au montage et au choix de ce que vous avez prélevé pour le montage. Je me dis que on a plutôt une sensation de printemps, automne, début d'hiver, pas du tout d'été caniculaire et pas du tout d'hiver où il pleut. Donc, il pleut pas, il fait pas très très chaud. Or, il me semble que voilà, est-ce que c'est un choix volontaire? Est-ce que c'est lié à ce que vous avez filmé? Parce que je trouve qu'on sent les saisons beaucoup, hein. On le sent beaucoup, le printemps évidemment on le sent beaucoup, même avec les gros nuages noirs, on sent l'humidité, quoi. Il a plu, c'est après la pluie aussi à certains moments, donc on sent plein d'éléments comme ça, et par contre il y a des climats qu'on n'a pas, il me semble.
Donc les maïs, c'est un peu quand même.
Comment ?
Les maïs qui...
C'est beau, c'est beau.
Oui, 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 mais là, oui. Ah oui, tout à fait, le vent, on l'a beaucoup le vent, ouais.
Laure et Suzelle.
Ouais, non, mais déjà merci pour cette balade inaugurale de la journée qui nous a. Enfin, voilà, c'est un moment très agréable, je trouve, de débuter comme ça, puis d'avoir fait le tour des lieux. Bah, moi, j'avais deux choses qui rebondissent un petit peu sur ce qui a déjà été plus ou moins dit, mais au tout début du film, j'ai tiqué sur le texte introductif qui parle d'agglomération. Alors que Popsu, métropole, etc. Et je me disais, bon, agglomération, métropole. Agglomération, j'avais l'impression que c'était un peu encore un vocabulaire passé, quoi. Et que maintenant, on est plus dans la métropole. Et en fait, je trouve que le périmètre du film, il dit bien ça, en fait. Il dit bien l'entre-deux de ni agglomération, enfin, sur les bords de l'agglomération urbaine et sur les pentes du territoire métropolitain, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment pertinent et... singulier comme échelle de comme ligne pour regarder ce que c'est Grenoble, quoi, qui est à chaque fois soit sinon centre-ville, soit on est sur les massifs et on regarde de loin, de haut, etc. Du coup, ça c'est je trouve une représentation de Grenoble que j'ai rarement vue, qui est très chouette. Et puis après, j'ai bien aimé aussi cette entrée par l'eau comme une surface de miroir qui nous permet de regarder différemment le territoire dans lequel on est. Enfin, il y a quand même tout ce jeu de reflets, je trouve. Même inaugural avec les surfaces vitrées des transports en commun, puis après l'eau qui est plutôt miroir. Et puis tout ça se met progressivement en mouvement, quoi. Et le chien vient troubler la surface de l'eau. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que petit à petit, tout se bruisse, quoi. Tout devient de plus en plus bruissant. Et que... Et que du coup, il y a de plus en plus de vent aussi, et qu'on n'est plus juste dans des écoulements d'eau, mais aussi dans des écoulements de nuages, d'air, etc. Et que ce jeu de miroir, il se situe aussi entre... avec les pentes elles-mêmes, en fait. Le fait de pouvoir monter pour regarder Grenoble, et en même temps d'être face, quand on est à Grenoble, sur ces pentes, toujours en miroir, quoi. Voilà, je me demandais s'il y avait, dans la construction du montage, s'il y avait aussi quelque chose, une volonté d'être progressif dans ce bruissement ou dans ces écoulements. Voilà, moi je l'ai vu comme ça, mais je ne sais pas si c'était... Si vous pouvez en dire plus.
Suzelle, et puis après...
Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la question des usages, en fait. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait collectif dans les usages de ces parcs et qui renvoie une identité qui serait grenobloise, parce que il y a des usages de ces parcs qui sont très courantes de n'importe quel parc urbain n'importe où dans le monde, et puis il y en a d'autres où je me suis demandé si justement il y avait quelque chose qui serait plus spécifique à l'identité de la ville, et je me demande si ce ne serait pas les plans où on a des gens qui ont des activités par exemple, au début, quand on voit les personnes qui se baignent, mais qu'on est dans ce drone urbain très très violent. Et je me suis demandé si ça pourrait être quelque chose qui serait de cet ordre-là, des usages comme ça, mais dans une ambiance qui n'est pas pas que urbaine, qui est périurbaine, au sens où il y a des voies de circulation très importantes qui dominent tout. Est-ce que ça serait quelque chose comme ça, on pourrait faire collectif, en fait, des pratiques dans des ambiances sonores un peu violentes, un peu. Mais c'est une, voilà, des questions que tu posais en regardant le film.
Je peux ajouter juste encore une petite question, parce que ça me fait penser à ces écologies métropolitaines. C'est juste de souligner la place de la voiture dans... C'était ça que... Et surtout ce dernier plan où la voiture part. On n'a que les insectes de la nuit. Et en fait, ça m'a fait penser au bouquin de Ryan Bannum sur Los Angeles où l'autoroute elle-même est une de ces écologies. Et je me demande, en fait, si on peut aussi dire ça de Grenoble. Il y a aussi dans un des plans la route que... La piste que pour moi définit Grenoble le mieux, c'est cette route qui passe le long de l'Isère, qui va de l'Isère jusqu'à la gare. Mais en fait, il a plein de ces... Je me demandais s'il a quelque chose à creuser en termes de ces circulations.
Mais en même temps, je trouve que tu as la place de la voiture. Enfin, moi, je vois, quand je lis le déplacement dans Grenoble de parc en parc, c'est des endroits qui sont super bien desservis. Tu peux tout faire en transport en commun ou à pied. Enfin, moi, dans le choix des déplacements, j'y lis aussi vraiment le réseau des transports en commun. Dans cette échelle qui est encore super bien desservie.
Ouais, c'est vrai. Mais on le sent une fois qu'on a parti du centre-ville. Quand on est dans les parcs, et il y a toujours les voitures qui sont là, mais pas les trams, pas les... De manière, à la fin du film, c'est ça c'est surtout cette présence de la voiture qui part. C'est ça qui... la présence de la voiture, en fait, qui nous a accompagnés tout le long. Et même si c'est pas... En fait, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est aussi tous les lieux que moi j'ai fréquentés en voiture, en famille, d'une manière, c'est aussi mon expérience en fait.
Bus,
alors moi je suis.
Mais on commence à répondre. Il y a deux niveaux. C'est bon, d'abord, premièrement, il y a le niveau de la fabrication du film, c'est-à-dire que de fait. On a un trépied qui est un peu gros, une caméra, etc. Donc en fait, les endroits où on y va en voiture. Ah. On peut marcher un peu, mais globalement, ça détermine beaucoup de choses. Et deuxièmement, ça viendra répondre un peu à tes interrogations, c'est que quand on fait un plan, on se demande qu'est-ce qu'il y a à filmer. Et ce qu'il y a à filmer, c'est ce qui va bouger un peu. Des fois, non, mais souvent, c'est ça. Donc ça peut être, en effet, des feuilles dans les arbres... La surface de l'eau et les voitures, ça fait partie aussi de ce qui est ce qu'on a envie de cadrer, mais surtout la nuit, parce qu'en plus la nuit ça fait de la lumière, donc on le voit sur les plans de nuit, donc on a un tropisme aussi à filmer les voitures de fait, enfin comme d'autres acteurs, on va dire d'autres actants, je sais pas comment on peut le dire, mais d'autres choses qui bougent en fait dans le plan. L'autre point, c'est sur au plan sonore, en fait. Pour moi, il y a vous n'avez pas vous en rappeler, mais ou peut-être que si, il y a un plan où on voit le Vercors enneigé avec des nuages qui passent et il y a une cheminée au premier plan. Et à ce moment-là, il y a le son des voitures et ça fait un espèce de drone, mais comme une note, ça fait. Et ça revient souvent. Et c'est parce que, il me semble, mais il faudrait demander aux spécialistes, c'est que entre les monts. En fait, il y a un effet de résonance. C'est comme un instrument. En fait, ça finit par fabriquer une espèce de registre de notes. Et ça, c'est vraiment particulier. Ça, je ne l'ai pas entendu. Faudrait y faire très attention, mais c'est quelque chose qui est très. Et qu'on n'entend pas forcément sur le moment quand on fait le plan, mais c'est après coup quand on réécoute, parce qu'au son, tout est mis à plat et qu'on n'est pas. On n'est pas en train de faire abstraction du son des voitures, justement. Et il y a cette espèce de musique qui arrive. Et ça, au montage. On l'entend d'autant plus quoi. je vais pas, enfin, je me rappelle pas de toutes les remarques, mais sur la question des climats qui manquent, en fait, il y a aussi le jour, la nuit. Donc, par exemple, la fin là dans la nuit, c'est vraiment, il faisait très très chaud. Et pour le coup, le jardinier, il faisait 35 degrés hein, ce jour-là. On était vraiment sur.
Non, mais c'est parce qu'il a des manches longues.
Oui, oui, aussi, ouais.
C'est pour les moustiques.
Mais c'est vrai que et aussi pareil. Quand il pleut, on se dit pas qu'on va aller dehors filmer en fait. Mais donc c'est aussi ça le problème. Donc c'est peut-être là-dessus, par exemple, ça pourrait te dire, ça serait bien qu'il y ait un plan de pluie parce que les pluies, on voyait ce matin. Hein, c'est quand il pleut à Grenoble, c'est quand même hyper violent. Et le très 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 chaud aussi. Alors comment ça se filme le très 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 chaud? Voilà, ça reste une question.
Il n'y a pas un plan de la Bastille où on voit comme des ondes de chaleur sur la ville à un moment? Non, c'est.
Si, peut-être. Ouais, mais il faisait pas si chaud.
D'accord.
C'est même un plan d'automne pour le coup. Ah. Il me semble, ouais. C'était un plan d'automne ou une journée d'automne un peu trop chaude pour l'automne. Et donc je pense qu'il doit y avoir des effets atmosphériques. Qui font que voilà, et plus là on est vraiment en longue focale, on regarde très loin, donc il y a des petits mirages qui arrivent dans le plan. Mais voilà, après sur les questions de justement du rôle du vent, etc., mais c'est vraiment dans ce registre d'images, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a, enfin, où est-ce que ça bouge? Ah, tiens, l'arbre il bouge, voilà. Donc on va chercher aussi nécessairement ces petites choses là. D'autant qu'on a des caméras qui permettent de les enregistrer, en fait. Les caméras numériques, je trouve qu'une de leurs qualités, c'est de pouvoir enregistrer ce type de bruissement, les petites choses, les feuilles dans les arbres. C'était pas le cas il y a 10 ans avec des caméras qui avaient une moins grande dynamique, par exemple. Et je pense que c'est même moins le cas avec des caméras analogiques en 35 mm qui enregistrent d'autres types de mouvements, mais celui-ci... Particulièrement, je crois que la définition des caméras numériques permet de le voir d'une certaine façon. Et après, il n'y a pas de comment dire, ce que tu as aperçu dans le mouvement du film, c'est une conséquence de la logique du montage, mais on a fait un peu comme on a pu en fait au montage.
Peut-être que la canicule elle est un peu immobile aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle a été filmée.
Oui, oui.
Elle écrase un peu les choses.
Alors, oui, après, il faudra aller re-regarder les 12 films de 3-4 minutes qui, du coup, sont lieu par lieu et avec le montage. L'idée d'arriver à un seul film pose toutes ces questions de choix. Alors que, je reviens là-dessus parce que, en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille, 10 ans qu'on travaille avec Julien et Naïm. On avait commencé par Amiens, par d'autres choses. Il y a aussi l'idée de produire des archives. C'est-à-dire, indépendamment d'un film final, qui a sa propre valeur esthétique, d'histoire, de montage, l'idée qu'on produit des archives, des images d'un lieu, qui aujourd'hui sont telles qu'elles sont, mais demain deviendront une archive, à double niveau. C'est-à-dire, à la fois pour voir comment était le lieu, entre guillemets, tout simplement, mais voir aussi quelles étaient les sensibilités des gens qui filmaient. C'est-à-dire, en fait, à travers le film, et ce film, à mon avis, n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'il dit la sensibilité, ou il dit les préoccupations, ou les questionnements que nous avons aujourd'hui en 2022, ou du moins à une partie des gens. Et ça, c'est intéressant quand on voit des films des années 20, des films des années 50, 70, etc. On voit aussi le regard, tout simplement, que la société porte sur ses propres espaces. Avec cette volonté, parce qu'il y a eu, j'ai eu le plaisir de travailler un peu sur le... qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas dans le film. Et très vite, on s'est mis dans un commun accord où on ne voulait pas des plans qui développent un discours critique sur les lieux, qui, par l'enchaînement des lieux, montrerait que telle chose est ridicule, plus d'actualité, risible, ou magnifique. Ou, vous voyez, enfin, on a essayé d'échapper, enfin, on n'y arrive pas forcément, mais il n'y a pas la volonté de dénoncer quelque chose, par exemple, hein, etc., de façon, comme on peut l'imaginer souvent dans les films qui montrent des villes, des territoires, etc. Il y a quelques idées qu'on a eues à un moment donné, qu'on n'a pas tenues, soit par manque de temps, soit parce que l'idée n'était pas bonne. La première, c'est Naïm qui l'avait eue, de se dire... On va prendre le livre de Raoul Blanchard qui est écrit dans les années 20, donc à 100 ans, et nous allons en extraire les phrases qui nous parlent de Grenoble et de ses géographies. Et nous allons les faire lire ou les écrire dans le film. Mais on ne saura pas qu'elles ont été écrites il y a 100 ans. Comme si elles avaient été énoncées ou écrites aujourd'hui pour le film. Et ce ne serait qu'à la fin du générique qu'on découvrirait que la description des images date d'il y a 100 ans. Ça n'a pas été pas si simple à faire en prenant les... Pourtant, le texte de Raoul Blanchard est plutôt une écriture contemporaine. Mais on n'a voilà, on a pas tenu cette piste-là, qui était peut-être une lecture qui nous aurait intéressé, en fait, de dire, quelque part, réactualiser Raoul Blanchard, ou une partie de ce qu'il dit dans le film, mais on ne l'a pas fait. Mais par contre, ce que tu dis, Marc, sur les écologies métropolitaines liées aux voitures, c'est vrai qu'on retrouve cette hypothèse chez Raoul Blanchard, que Grenoble est une ville-pont, au sens où c'est le pont entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, entre l'Italie et la France, de l'autre côté. Et c'est une ville-pont littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pouvoir traverser les rivières qui n'étaient pas endiguées. Et il y avait très peu d'endroits où on pouvait le faire. Et la métaphore va plus loin. Il ne le dit pas vraiment, mais un peu Raoul Blanchard dans son texte. Il dit, en fait, c'est une ville-pont au sens où, comme on est sur des marais, et moi, je l'avais étudié en première année d'archi, toutes les constructions jusqu'à il y a 80 ans étaient sur pilotis. Des pieux plantés dans l'eau, dans les marais en fait, et dans la nappe apparente, la nappe qui est à 5 mètres en dessous. Et donc toute construction étant sur pieux est en elle-même un pont. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de construction ancienne qui n'est pas construite comme un pont. Donc c'est très intéressant, je trouve, cette métaphore du pont. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, cette circulation, piéton, vélo, voiture, etc., on pourrait, est-ce qu'on pourrait tirer cette métaphore du pont à toutes les échelles, comme l'a un peu fait Raoul Blanchard, mais c'est moi qui extrapole sans doute, hein, pour ne pas être uniquement sur les freeways, comme chez le Banam, mais... Ouais. Quand même se dire, attention, toute cette circulation-là, ces trains, ces voitures, ces vélos, ces sentiers métropolitains, ils dessinent quelque chose pour la métropole grenobloise, qu'on n'a pas forcément à Lyon de la même façon, qu'on n'aura pas à Genève, qu'on n'aura pas... je trouve qu'il y a une piste vraiment intéressante à regarder.
Sur Blanchard, par rapport à cette remarque sur le type d'usage particulier, le livre de Blanchard se finissait sur l'idée que les Grenoblois étaient élevés à la dure. Et que c'est un environnement difficile qui appelle une espèce de physiologie particulière. On avait dans les hypothèses où le texte de Blanchard venait en contrepoint du film, c'était la conclusion. Voilà. Et alors Blanchard, on n'a pas réussi pour, à mon avis, pour une raison aussi, c'est que de faire coïncider, enfin. Comment dire ? C'était compliqué de faire coïncider le texte et les images sans que ce soit par moment trop illustratif ou par moment une espèce de fausse piste qui amenait vers un registre symbolique qui recouvrait l'image en fait. Et ça vaut aussi pour les images en elles-mêmes, parce qu'on a eu la discussion avec Pascal Enfou qui avait vu le film, pour qui lui disait il y a trop d'images qui n'ont pas la signature grenobloise. Qui sont des images du quelconque, on va dire. Alors, maintenant que j'y repense, je me dis, oui, mais si on regarde dans le détail, par exemple, ce que je disais sur le type de son de drone particulier de l'autoroute au loin, est-ce que c'est pas une signature aussi ? La façon dont les gens sont habillés aussi, en fait, au final. Il y a quand même une façon de s'habiller à Grenoble, ou un certain mélange de façons de s'habiller dans un certain type d'espace. Donc dans le détail en fait, dans le détail, on peut toujours retrouver ce qui fait que c'est à cet endroit-là et pas ailleurs. Après, évidemment, les images passent et du coup, on n'a pas forcément le temps. Mais je suis persuadé que tout porte là. On peut savoir à chaque fois.
Oui. Et dans la remarque de Jean-Paul, l'idée que ces plans sont peuplés, et de quelqu'un d'autre en fait, qui sont peuplés, etc. Ça rejoint, je trouve, l'idée que développe très bien François Laplantine dans Jean de Pékin, son bouquin, où il dit pour comprendre les grandes villes, pour comprendre la Chine, il faut regarder les documentaires, non pas parce qu'ils dénoncent ou qu'ils énoncent quelque chose de uniquement critique, pas par leur discours, mais parce qu'ils offrent des plans longs, et dans lesquels, en regardant les plans longs, on y lit plein de choses, à la rigueur que le cinéaste n'a pas forcément cherché à énoncer. Et ça, je trouve qu'il y a une partie des plans qui nous permet de les regarder sans se soucier du discours global du film, et d'aller y chercher, ou d'aller y saisir, ou essayer de tenter d'y comprendre quelque chose qui n'est pas forcément énonçable par le réalisateur.
Et là, je me dis que c'est peut-être un peu ça qui est...
perdu en quittant l'idée de suivre un personnage. C'est-à-dire qu'il y a notamment les deux filles qu'on voit grimper dans les rochers, tout de suite elles nous installent dans une durée, dans un effort, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres plans. Moi j'ai l'impression quand même qu'on est dans un montage qui est à la fois virtuose, parce qu'il y a énormément de plans à assembler, et qu'il faut à chaque fois trouver un vocabulaire pour passer d'une chose à l'autre. Mais moi ça continue à me... tout en vous écoutant, je continue de voir un film qui n'existe pas. Et qu'est-ce que ça aurait donné avec ce que vous avez essayé, puis écarté, de suivre un personnage où, effectivement, à un moment, on avait vu des premiers montages...
Avec Stéphane, le
personnage. Ouais, ou avec la proposition d'avoir un...
C'était les deux qui allaient courir.
Ah oui, tout au début. Ouais.
Ou un repère visuel, d'avoir un personnage qui sert de repère visuel, puis au montage, qui permette de... Je crois qu'il y avait eu ça à un moment. On suit quelqu'un marcher, puis clac, on coupe et on le retrouve marcher ensuite dans un autre espace, et puis voilà. Et je trouve que, enfin bon, c'est, je me disais qu'il y avait peut-être un chemin intermédiaire en fait entre fiction et factuel, où il n'y aurait pas forcément une histoire à raconter, mais il y a quand même un personnage qui installe une échelle et une durée, et où je trouve que c'est quand même difficile dans cet environnement de... dans cette marge entre la plaine et les pentes, de rapidement comprendre l'échelle des choses. C'est-à-dire, soit on filme des petits oasis de verdure qui ont quasiment une sorte d'échelle autonome, parce que c'est une proposition d'aménagement qui, où tout a été fait à cette échelle-là, mais d'arriver à confronter tout ce qui se passe sur les pentes en termes de rupture d'échelle, en termes de minéral massif, de blocs, de tout ce qui dégueule de la montagne, tout ce à quoi effectivement tu le disais, Pascaline, quoi, il y a du danger à pouvoir aller un petit peu au-delà. Ben ça, je trouve que le plan où il y a les deux personnages, tout d'un coup le fait vraiment sentir. Voilà. Il faut trouver le geste, il faut trouver son chemin, et ça installe une durée qui est différente.
Est-ce que vous avez montré le film à des membres de bois ?
Non, pas en bonne condition.
Ils ont tous emménagé à Grenoble.
Non, parce que en regardant le film, même si je connais pas tous les parcs, je reconnais tous les massifs, par exemple. Et ça ramène un imaginaire vécu qui, pas parasite, mais suit toute la projection. Je serais curieux de savoir pour
ouais.
Je sais pas,
essayer, ouais.
Quelqu'un qui a jamais vécu Grenoble.
Moi qui n'y habite plus depuis 20 ans, je me repérais. Enfin, je savais où. Même si ce sont des parcs que je ne connais pas, dès que je voyais un petit bout de montagne, je savais où on était.
Il y a Gwendoline qui ne connaît pas trop Grenoble. Il y a Jean-Paul aussi qui voulait intervenir.
Ouais, je me demandais sur. Jusqu'où vont les pentes, en fait. Et aussi dans cette question de jusqu'où vont les pentes, il y a des aménagements qui auraient ramené aussi une strate. Plus historique, et aussi donc je pense aux forts, de nombreux forts, à des vignes, enfin en tout cas d'autres traces d'activité. Et donc j'imagine qu'il y a eu un choix de fait pour, où je pense au tremplin qui est à Saint-Nizier, là, une espèce d'une anthologie quoi, avec un H, aussi
deux H. Je peux répondre plutôt dans le dessus. Dont est issue l'origine de ce travail-là, en fait, on a fait des traversées des trois vallées. Donc, en fait, on est passé d'une passe à l'autre. Et pour éprouver ça, en fait. Hein, et donc, l'hypothèse, effectivement, c'est qu'il y a les plateaux, les premiers plateaux, hein, qui en Chartreuse, c'est un plateau Saint-Dizier, c'est un plateau, etc. Mais que quand on descend un petit peu de ce plateau, ça se joue presque à 50 mètres près, quoi. On sent qu'on appartient plus à la métropole, à la ville, pour le dire administrativement, à la métropole qu'au parc naturel du Vercors ou qu'au parc de Chartreuse. Par la façon dont les gens travaillent leur terrain autour des maisons. Vers où regardent les objets architecturaux, etc. Alors c'est moins clair du côté de Belledonne parce que les plantes sont beaucoup plus douces, mais du côté de la Chartreuse et du Vercors, c'est assez.
Donc c'est ça qui a délimité, qui a sculpté un peu.
Pour Charles et moi, l'hypothèse, c'est que les pentes, c'est vraiment les parties proches de nous et ça s'arrête, entre guillemets, aux communes qui, elles, se sentent appartenir plutôt au massif. Voilà. Même si administrativement, des fois, c'est plus bas que ça se fait, etc. C'est un peu notre. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi certaines communes, pour moi, ont du mal à rejoindre la métropole administrativement et que d'autres pour lesquelles il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas forcément une question de distance, c'est une question d'appartenance pour moi à une forme de grande écologie métropolitaine ou d'un parc, quoi. Et donc tout ce qui est en plaine, on voit bien, ça part, etc. Et d'ailleurs, le truc le plus intéressant, c'est que Champs-Rousse a réclamé, je crois que c'est fini, mais a réclamé de devenir métropolitain. C'est-à-dire, en fait, alors qu'on n'est pas contigu. Et les communes entre Champs-Rousse et la métropole ne le veulent pas. Et donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant à réfléchir. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que Champs-Rousse se vit comme une pratique métropolitaine et pas comme une pratique de parc de Belledonne.
En tout cas, c'est l'image ce qu'ils essaient de vendre.
Ouais, clairement, la ville en montagne.
Et donc, ça laisse un imaginaire intéressant que le métropole n'est pas forcément un périmètre contigu.
Moi, j'ai une question de piège. Un peu de la manière de. En fait, la réflexion de Laure sur la question de la limite entre agglomération et métropole. De la même manière, à la fin, il y a. Je crois qu'il y a un sous-titre. Le film s'inscrit dans un programme qui questionne la métropole résiliente. Du coup. Comment est-ce que vous en êtes saisi de cette notion de résilience? C'est là que je dis qu'il y a une question piège, parce que...
on propose que ce soit peut-être la dernière question, on se donne 5 minutes.
Arrête, et puis Jean-Paul avait une... Vas-y Jean-Paul, avant que je réponde.
Non, mais je ne veux pas couper la réponse de... Non, c'était juste pour... J'avais deux choses. Sur l'histoire du son, en fait, la présence de la voiture, je me demandais s'il n'y avait pas malgré tout des poches de silence. Par exemple, au Mûrier, typiquement, on est derrière toute la vallée, et donc il y a une sonorité qui est assez différente du reste. Donc, est-ce que c'était pas... Voilà, première question. Deuxième chose, je me disais, du coup, suite à la discussion, est-ce qu'il serait envisageable ou intéressant de repartir sur plusieurs propositions de montage à partir de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que de se dire la lecture de Raoul Blanchard,
t'as 10 plaques à remettre sur la table.
Ouais, non, mais bon, partant des rushs que vous avez, et une dernière chose par rapport à ce que disait Olivier, je pense que sur la perception des atmosphères, des sentiments atmosphériques, moi je travaille en ce moment sur le cinéma de Bellatar, et c'est vrai que lui travaille presque à l'opposé de ça, pour faire presque dans la même optique, qui est de donner à sentir des atmosphères, qui travaillent précisément sur des plans très 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 longs, avec des montages minimaux, qui sont presque à l'opposé de cette proposition-là, qui est plutôt énormément de plans courts, très bien montés. Voilà, donc c'était juste pour dire peut-être cette piste-là.
Le film est né de la commande du Popsu, de notre recherche du Popsu, donc plutôt dans un cadre d'acteurs de l'aménagement urbain qui réfléchissent à la ville de demain, etc., etc. Et ça explique peut-être implicitement certains choix qui ont pu être faits par rapport à la communauté aussi dans laquelle il est censé diffuser. Aujourd'hui, il est sur le site de l'agence d'urbanisme, etc., etc. Mais du coup, la résilience, c'est l'hypothèse principale, je la rends à Charles, c'est qu'il dit, Charles, moi je me sens assez d'accord, c'est-à-dire que Grenoble a oublié sa géographie, c'est-à-dire a oublié à savoir composer avec les pentes et l'eau, et même peut-être avec la plaine, entre guillemets, ce n'est que l'envahir. Et donc, si la métropole grenobloise doit être résiliente demain, c'est-à-dire avoir des capacités d'adaptation, de variation, etc., c'est en retrouvant sa géographie. Donc, en renouant un rapport moins de protection ou d'annihilation de son rapport à l'eau, aux pentes et même à la plaine. Donc, notre hypothèse, elle est là, en fait. La résilience passera aussi par le fait d'être capable de retrouver notre géographie et de composer ou de s'inventer avec ou d'en respecter ou de... etc. Merci pour ça.
Merci.
Julien est inquiet, il faut faire des images. C'est vraiment donc Julien, c'est le preneur de son, chef opérateur. Et Valentin est le preneur de son. Et en fait, comme le montre Naïm, il n'y a pas qu'un réalisateur final qui pilote tout, il y a vraiment un apport des trois.
Bien sûr. L'équipe. Sur le montage, juste pour finir, il y a deux types de plans dans le film. Sur la question de savoir où on coupe, il y a des plans qui ont besoin d'être rythmés par un geste de montage, parce que c'est des plans presque... Par exemple, une montagne, la durée du plan, elle est déterminée, c'est comme une note, donc combien de temps on la tient. Et après, il y a des plans qui sont, dont la coupe peut être déterminée par ce qui se passe dans le plan. C'est souvent quand il y a des gestes. Par exemple, il y a un plan de nuit, on voit deux petites filles qui jouent, et à un moment donné, il y en a une qui s'étend comme ça, et bon, là, c'est le choix. On se dit, c'est à cet endroit-là que le plan doit être coupé. Ou quand il y a la jeune fille qui descend des rochers. Ouais. Donc, il y a deux types de raccords là. C'est... soit on joue le plan comme une espèce de note en disant boum, 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 avec peut-être des durées différentes, etc. Soit le plan impose en fait. Mais il y avait un montage, je pense, avec à peu près la même durée où il y avait, à mon avis, trois fois moins de plans. Ouais. Mais on s'était dit que c'était pas très généreux.
Généreux en termes de quoi
Disons qu'il fallait en voir plus, c'était en voir plus, et ouais, les plans, le montage plus long. Il y a aussi quelque chose qui était peut-être pas assez maîtrisé, c'était que quand le plan dure, à un moment donné, on se dit, ah, il veut nous dire quelque chose là.
Voilà, c'est ça.
Il faut trouver la bonne justesse pour pas que le plan, en s'installant de trop, semble vouloir dire quelque chose.
Mais ces plans, on les retrouve dans les 12 films,
oui, bien sûr,
12 petits montages qu'on peut cliquer sur le site de la URG. On va se dire, si je veux faire 4 minutes dans tel parc, je les ai.